Il est 8h. Vers un vaccin made in France, il y a ce matin des raisons d'y croire. Sanofi vient tout juste de présenter une formule efficace contre le Covid, entre 95 et 100%, facile à stocker. Détail dès le début de ce journal et explication à 8h15 avec votre invitée Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Effectivement, c'est en exclusivité sur Europe 1, le patron de Sanofi France, Olivier Bougio, les tout derniers résultats des essais de leur candidat vaccin et enfin, l'espoir d'un vaccin français. Rendez-vous à 8h15.
Dans ce journal aussi, postes de travail non sécurisés, antivirus inexistants, les PME françaises pas suffisamment armées en matière de cybersécurité. Résultat d'un sondage qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Et puis, obligés d'embaucher pour gérer la demande, les restaurants étoilés pris d'assaut à l'approche de la réouverture en mercredi. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dans la course au vaccin anti-Covid, c'est l'histoire d'un départ raté, suivi d'une chute au premier obstacle et d'un sprint engagé pour revenir sur les premiers. Après des résultats décevants en décembre dernier, Sanofi et cette fois, en passe de pouvoir proposer un vaccin.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Vous venez de suivre la présentation des derniers résultats du laboratoire français et ils sont très encourageants.
Oui, ce matin, le laboratoire a annoncé une réponse immunitaire de 95 à 100% de son candidat vaccin après deux doses. Une efficacité mesurée dans toutes les tranches d'âge, de 18 à 95 ans. Ce sont donc des résultats très proches de ceux obtenus avec les vaccins à ARN messager, les plus performants jusqu'ici. Mais ce vaccin qui utilise la technique de la protéine recombinante a l'avantage de se conserver dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés. Cette technologie a déjà fait ses preuves dans la vaccination contre la grippe ou la coqueluche.
Alors maintenant, le calendrier, Anne, c'est quoi pour Sanofi ?
Alors, ces résultats très encourageants contre le Covid vont permettre de déclencher les essais de phase 3, qui sont donc les essais à grande échelle sur l'homme. Ils seront menés sur 35 000 personnes dans plusieurs pays. Deux formulations vont être testées et l'une d'elles visera plus particulièrement le variant sud-africain. Le laboratoire prévoit aussi de lancer en parallèle la production industrielle de son vaccin. Et si les résultats se confirment, les premières doses pourraient arriver au plus tôt en octobre. Malgré l'arrivée tardive de ce vaccin sur le marché, Sanofi estime que son sérum trouvera toute sa place dans l'arsenal existant, notamment pour les rappels qui pourraient devenir saisonniers.
Les explications d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Et on l'a dit, je vous le redis, en exclusivité juste après ce journal sur Europe 1, le président de Sanofi France, Olivier Bougio, invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Et vous, vous faites quoi mercredi ? Un musée ? Un ciné ? Du shopping ? Un dîner ? Il est temps d'y penser car le déconfinement se prépare avec en plus une extension du couvre-feu à 21h. Et dans les restaurants, les réservations affluent, même dans les établissements les plus huppés, comme l'a constaté Maud Descamps auprès de plusieurs chefs étoilés.
Pour obtenir une table chez Alexandre Mazia à Marseille, il faudra attendre le mois de décembre avec une troisième étoile tout juste décrochée. Les clients se bousculent.
On a plus de 3900 réservations qui attendent, dont on n'a que 24 couverts et on est ouvert à 8 services. Donc il va falloir être patient.
Même chose pour le chef triplement étoilé Christophe Bacquier au Castellet qui a dû embaucher du personnel.
Comparé à l'an passé où il y avait juste une personne aux réservations, ben là on s'est armé. Elles sont deux filles aux réservations, plus notre chef de réception et une quatrième personne qui vient en renfort à partir d'aujourd'hui. C'est environ une centaine de mails par jour à traiter en ce moment.
Un grand nombre de demandes, mais aussi des contraintes sanitaires à respecter. Alors les chefs s'adaptent, explique David Bizet du Peninsula à Paris.
Une possibilité de all-day dining, c'est-à-dire à partir de midi, de pouvoir déjeuner à n'importe quelle heure jusqu'au soir. Une carte aussi plutôt orientée tapas fin de soirée. On a essayé d'être au plus proche de la demande de nos clients.
Des clients essentiellement français pour le moment, beaucoup d'habitués, mais aussi quelques novices qui, après une année de privation, fêtent la réouverture des restaurants en s'offrant le meilleur de la gastronomie française.
Et pour les Britanniques, à partir d'aujourd'hui, ce pourra être fish and chips et bière en intérieur. Réouverture aussi des hôtels, lieux culturels et stades, jusqu'à 10 000 spectateurs.
C'est un autre genre de virus, mais ses conséquences peuvent être dévastatrices. 6 mois après avoir été touché, 60% des entreprises ne s'en remettent pas. Mais malgré les risques de cyberattaques, les PME françaises tardent à investir.
C'est ce que révèle un sondage IFOP pour la société de conseil F-Secure qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Et ce qui est marquant, Clément Lessard, c'est que même quand les entreprises ont conscience des risques, elles n'y mettent pas les moyens.
Oui, selon cette étude, pour 60% des PME, le budget pour la protection de leur système informatique ne doit pas dépasser 1000 euros par an, une somme qui suffit tout juste pour une TPE de moins de 10 salariés et qui est donc très insuffisante pour une entreprise de 20 ou 50 salariés. Mais au-delà des considérations financières, pour Guillaume Gamelin, vice-président de F-Secure France, il faut surtout mieux former les salariés à la sécurité informatique.
Ça va être d'avoir une bonne sauvegarde de ces données pour être capable, au pire, de repartir le plus vite possible, éduquer les utilisateurs pour changer de mot de passe régulièrement, utiliser des mots de passe forts. Ça va être éduquer les utilisateurs, par exemple, sur le fait qu'il faut patcher régulièrement les machines. Aujourd'hui, on ne se doute pas, mais 8 cyberattaques sur 10 utilisent une faille de vulnérabilité, qui est connu.
Et ce manque de connaissances crée un décalage problématique dans la perception des risques liés aux cyberattaques. 2/3 des dirigeants interrogés estiment que leurs salariés sont suffisamment protégés, et ce alors même que les mesures de base ne sont pas toujours prises. Une entreprise sur 2 ne sécurise pas ses postes de travail et 1/3 n'utilise même pas d'antivirus.
Précision signée Clément Le Saffre. Il avait prémédité son acte après avoir reconnu avoir tué son patron et un collègue. Mardi dernier, Valentin Marcone a été mis en examen hier pour assassinat et placé en détention.
Après un troisième échec à l'ONU, pas de répit au Proche-Orient avec encore ces dernières heures d'intenses raids aériens menés par Israël sur la bande de Gaza.
Gwendoline Debono, vous êtes à Jérusalem. Pour Europe 1, ce sont des dizaines de cibles qui ont été pilonnées par l'aviation israélienne.
Et hier, le chef d'état-major israélien a déclaré que jamais le Hamas n'avait rencontré une telle force. Les Gazaouis affirment eux aussi que l'intensité des frappes est plus forte que lors des offensives de 2012 et 2014. Hier, c'est toute une portion de rue qui a été détruite après la destruction de l'immeuble depuis lequel travaillaient les journalistes de la presse internationale. Le premier ministre Benjamin Netanyahou assume.
Un bureau de renseignement pour l'organisation terroriste palestinienne se trouvait dans cet immeuble, qui prépare et organise des attaques terroristes contre des civils israéliens. Donc c'est une cible parfaitement légitime. Nous avons pris toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes civiles. En fait, pas de morts, pas de blessés d'aucune sorte.
Les résidents ont bien tous été évacués une heure avant, mais c'est loin d'être toujours le cas. Avant-hier, une famille entière dont 8 enfants est morte dans la frappe qui a ciblé son immeuble. Personne n'avait été prévenu. Le Hamas a riposté avec un barrage de roquettes sur Tel Aviv.
Gwendoline Debono à Jérusalem pour Europe 1 et ses affrontements au Proche-Orient. En une semaine, on fait environ 200 morts.
Votre journal se poursuit dans un instant. Oui, oui, le Titanic dans l'actualité. Entre mystère et promesse de gros sous. A tout de suite sur Europe 1.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal Marion Calais.
Et d'ici une dizaine d'années, il aura peut-être totalement disparu, rongé par le sel et les bactéries. Le Titanic ne pourra plus compter que sur sa seule légende pour survivre. Une légende toujours vivace, on atteste ce parc d'attractions en Chine où l'on vous emmène dans un instant. On atteste aussi ses recherches au Canada sur un message retrouvé sur une plage avec ces mots « Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique, nous devons arriver à New York dans quelques jours ».
Alors s'agit-il du message d'un passager qui aurait dérivé une centaine d'années en mer ? Les premiers résultats laissent planer le doute, Jean-Jacques Herry.
Oui, et ce que l'on sait, c'est que la signataire de la lettre, Mathilde Lefebvre, figurait bien sur la liste des passagers du Titanic. C'était une petite fille de 12 ans, originaire de Liévin, qui voyageait en troisième classe avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre son père expatrié au Nouveau Monde. Un père qui ne reverra malheureusement jamais sa famille après le naufrage. Les constatations matérielles laissent aussi penser que la bouteille pourrait bien dater du début du XXe siècle au vu de sa composition chimique et de la qualité du verre. Même chose pour le papier et l'encre utilisée. Pour autant, difficile de comprendre comment la bouteille a pu être découverte en 2017, 105 ans plus tard, sur les côtes canadiennes. La probabilité que les courants marins de l'époque la portent vers l'Europe était en effet beaucoup plus forte. Autre élément qui pose question, l'écriture manuscrite. Elle semble un peu trop personnelle pour une petite fille, éloignée en tout cas de la norme cursive enseignée dans les écoles de la Troisième République. Conclusion donc, pour le moment, les scientifiques ne peuvent toujours pas se prononcer et écarter définitivement la possibilité d'un canular. Un canular qui serait à la fois cruel et rudement bien fait.
Et soyons honnêtes, on a surtout très envie d'y croire, Mathieu, à ce message revenu de l'Atlantique. Et à l'image de la démesure du navire, ce projet pharaonique en Chine, une réplique en cours de construction au milieu des champs dans le sud-ouest du pays, un futur parc d'attractions où nous emmène le correspondant d'Europe, Sébastien Lebelzik.
Elle ne ressemble pour l'instant qu'à un vaste amas de tôles entouré d'échafaudages. Mais cette reproduction grandeur nature du Titanic est une copie comme seuls les Chinois savent en fabriquer. de la salle à manger aux poignées de porte, tout est conforme à l'original qui gît toujours par 4000 mètres de fond. L'idée a germé dans l'esprit d'un millionnaire, Su Xiaojun, passionné par l'histoire du paquebot géant, mais surtout homme d'affaires avisé.
Nous allons attirer des touristes du monde entier. On estime le nombre de visiteurs entre 2 et 5 millions chaque année. Avec une telle fréquentation, le retour sur investissement est assuré.
Les visites se feront au rythme de la bande originale du film. Clin d'œil encore au cinéma, c'est Bernard Hill, l'acteur britannique qui jouait le rôle du capitaine dans le Titanic de James Cameron, qui prendra la barre lors de la cérémonie d'ouverture.
Tout cela a été fait de manière très délicate et respectueuse.
Après 6 ans de travaux et 150 millions d'euros investis, ce Titanic Land devrait accueillir ses premiers passagers à la fin de l'année pour de vraies fausses croisières sur la terre ferme, facturées quand même 250 euros la nuit. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Eh oui, le Titanic, ça se mérite. Enfin en Ligue 1, le titre se jouera le week-end prochain. Après le match nul contre Saint-Etienne, 0 partout, Lille n'a plus qu'un point d'avance sur le PSG vainqueur face à Reims, 4-0.
Quel suspense pour cette fin de championnat de Ligue 1. Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Dans un tout petit instant, on retrouve Sonia Mabrouk et son invité en exclusivité sur Europe 1 ce matin, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot. À tout de suite.